Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée aux pérégrinations de Vassili Grigorovitch Barski, pèlerin russe parti de Kiev pour un long voyage qui a duré à peu près 25 ans en Méditerranée, surtout orientale, l'Italie et la Méditerranée orientale. Nous avons avec vous Myriam Odaïski, qui a traduit cet ouvrage, et Pierre Gonod, professeur à Sorbonne Université et directeur d'études à l'École pratique d'autres études, pour commenter cette source en fait merveilleuse de notre connaissance de cette époque et de ces lieux, écrite par un pèlerin qui fait un journal et qui écrit aussi, comme vous avez dit lors de la première émission, dans une langue assez savante de l'époque, et qui orne son travail avec des dessins qui sont connus maintenant. Et comme j'ai déjà dit, enfin, il y aura sur le site de l'émission deux dessins pour aller regarder un peu ce que c'est. Et évidemment, dans ce livre, il y a toute une série de dessins. Aujourd'hui, nous allons parler de ce voyage et des différentes étapes. Donc, on commence par l'Italie, parce qu'il a commencé par l'Italie. Et puis, évidemment, vous allez nous dire où il est passé. Je ne sais pas, Myriam, peut-être vous voulez nous dire à peu près quelles sont les étapes importantes de ce voyage.
Alors, d'abord, il y a eu quand même la traversée depuis Kiev jusqu'à l'Italie, en passant par Buda, Pest et Vienne. Et puis, ensuite, donc, le tour de l'Italie à partir de Venise, parce qu'il est descendu la côte italienne jusqu'à Bari. Et ensuite, il est remonté par l'autre côté de la botte en passant par Naples et Rome. Donc, il a fait un tour entier de la péninsule italienne. Et ensuite, il s'est dirigé vers la Grèce et le mont Athos pour terminer vers un lieu important pour lui aussi, le pèlerinage en Terre Sainte. Et après, c'est là que ça se complique un petit peu parce que il a fait des tas d'allers-retours entre la Syrie, le Liban, l'Égypte, Chypre. Et son voyage sur la carte devient un peu inextricable parce qu'il il part visiter des lieux au gré des circonstances. Donc c'est difficile de faire des étapes véritablement de son voyage. En tout cas, il s'est arrêté longtemps à Chypre et à Patmos. Et ensuite, il a été appelé par le résident russe à Constantinople pour faire le rapport de son voyage un peu. À ce moment-là, il a obtenu un statut officiel et son voyage a un petit peu changé de statut. Et il est retourné au mont Athos, mais en tant que personnage officiel et non plus en tant que pauvre pèlerin qui dormait sur le bord du chemin. Et il a pu ainsi faire quelques voyages. Et ensuite, il est revenu à Constantinople, mais comme le résident ayant changé, il avait de mauvaises relations avec ce nouveau résident. Et je pense aussi qu'il avait vraiment envie de rentrer chez lui. Et finalement, il a quitté Constantinople pour rentrer à Kiev, où il espérait devenir enfin un professeur de grec reconnu.
Alors, le résident qu'on vous dit, c'est l'ambassadeur, hein, c'est ça, de l'Empire russe auprès de la Sublime Porte. Il faut imaginer aussi Constantinople de l'époque, hein, toutes ces ambassades qui sont en face, en fait, à la Constantinople ancienne, hein. Sur Galata, comme on dit, ou Péra, comme on dirait parfois, ça, ce quartier des ambassades. Et donc, oui, il y a, à partir d'un moment, il prend un statut officiel en tant que de Russe venu pour établir un rapport de voyage. Est-ce que ce voyage en entier peut être considéré comme un témoignage aussi de foi? Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui, en écrivant, veut absolument montrer qu'il fait un témoignage de foi? Ou son souci, c'est uniquement de décrire les lieux qu'il voit?
Pour Barski, il n'y a pas de séparation entre la foi et la raison. Parce que toute découverte intellectuelle est une occasion pour lui de rendre grâce à Dieu. Parce que sa foi est vraiment le fondement de sa vie et de sa pensée. Et pour lui, ce n'est pas en contradiction avec une découverte et une ouverture intellectuelle. Donc c'est, oui, c'est une confession de foi. Et en même temps, c'est aussi un grand désir d'agrandir son savoir et de faire partager aux autres. Et Barski a aussi évolué au cours de route, parce qu'au départ, il n'hésitait pas à se faire passer pour catholique pour pouvoir obtenir l'entrée à l'hôtellerie, un repas, quand il était en Europe occidentale. Donc. Mais après, quand il est arrivé à Venise et qu'il a eu son premier contact avec les orthodoxes, il a vu que c'était devenu un obstacle, son ouverture à la culture latine. Les orthodoxes ne l'acceptaient pas du tout. Moatos, il a eu aussi de gros problèmes à cause de ça. Donc son orthodoxie s'affirme en cours de route aussi à cause de ça. Et en dernier lieu aussi, ce qui est important, c'est qu'il a découvert l'état de l'orthodoxie en Palestine, en Syrie, au Liban, qui souffrait beaucoup de l'union. Et à ce moment-là, il a vraiment choisi son camp, on peut dire ça comme ça.
En fait, il faut dire aussi qu'il est devenu moine, si je ne me trompe, pendant le voyage. Quand il est parti, il n'était pas moine. Hein?
Oui, il est devenu moine à Damas en 1734. Oui.
Voilà, cet engagement, donc, s'est confirmé pendant le voyage. Alors, comme le temps ne permet pas, évidemment, de tout voir, on va faire des arrêts comme ça, des étapes importantes de ce périple. Je ne sais pas, Pierre Gonod, vous avez le choix. Enfin, une étape qui vous paraît importante et un récit fort comme ça.
Voilà. Alors, il y a eu Rome où il était encore plein de curiosité et où il est très fier d'avoir été admis à une audience pontificale, un peu par chance. Donc, il en est ravi, au fond, il l'a décrit. Et après, évidemment, il comprendra qu'il vaut mieux pas s'en vanter, en particulier, justement, au Mont Athos, lors de son premier séjour. Et puis, le moment, quand même, fort, peut-être pas le plus fort, mais un des plus forts, c'est évidemment la marche de Jaffa à Jérusalem. Parce que là, il va arriver quand même au centre peut-être du monde chrétien. Et d'un autre côté, il y a tous les aspects matériels et un peu la peur que ça inspire. Alors, je lis simplement quelques lignes. Il faut payer pour faire ce trajet. Alors, jusqu'à présent, il a toujours réussi un peu à attendrir tout le monde, à passer même dans les bateaux plus ou moins gratuitement. Mais là, donc on nous dit, les laïcs donnèrent 7,5 talers, les moines 3,5. Quant à moi, je donnais la somme prélevée aux moines. Je passais aisément pour un moine en raison de mes longs cheveux, il n'est pas encore moine, et de ma courte barbe due à mon long voyage. Donc, évidemment, il se met dans la file et... il faut payer parce qu'on est censé acheter une sorte d'escorte qui vous protège. Et il dit, sinon, évidemment, il serait absolument impossible de passer à cause des brigands qui pullulent. Lorsque quelqu'un dans la campagne tombe entre leurs mains, s'il ne le tue pas, il le lapide, le laissant mort sur la route. Donc évidemment, vous voyez aussi, comme le bon samaritain, il est en plein dans ce vécu du pèlerinage et d'un moment très fort. Et après, évidemment, il va nous décrire en détail Jérusalem et à plusieurs reprises, et la cérémonie de la Pâque aussi, donc qui est un temps très fort pour tous les chrétiens.
Et en même temps, nous avons des informations sur la manière dont ça se passait à cette époque-là.
Ah oui, très concrète. Et il nous dit, bon, qu'il a un moment, il s'est un peu attardé, qu'il se trouve isolé, et là, il a une séance de peur, hein, tout simplement, qu'on peut comprendre très bien. Donc c'est un moment assez fort. Alors peut-être que l'autre moment, je ne sais pas si Myriam sera d'accord, c'est un peu plus tard lorsqu'il va aller au Mont Sinaï. Donc là, c'est donc à la page 294, on va juste dire quelques extraits. Il arrive à ce monastère, tout seul ou presque, avec juste un guide, et donc il frappe à la porte qui est fermée. Donc le gardien me demanda qui j'étais, d'où je venais, pour quelle raison j'étais venu jusqu'ici. Je répondis à ses questions, lui disant que j'étais venu vénérer le saint lieu. Il me rétorqua que le temps n'était pas favorable au pèlerinage. N'avais-je pas appris que le monastère était fermé, que nul ne pouvait y entrer ni en sortir, sous peine d'engager le monastère et de causer sa perte. Alors il est là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va camper, littéralement, au pied du monastère. Alors d'abord on essaie de lui donner un petit quelque chose, on lui dessine un panier. Et il mange, mais il ne s'en va toujours pas. Alors finalement, on va le laisser entrer en catimini par derrière, par les jardins, pour s'en débarrasser. Et c'est comme ça qu'il fait à plusieurs reprises.
Alors, Barski est allé deux fois en Terre Sainte et deux fois au Mont Athos. Vous aviez dit lors de la première émission, Myriam, que le deuxième voyage à Athos ne fait pas partie de ce bouquin. Mais nous allons maintenant faire une étape à Latos. Vatopédi, qui est un grand monastère aujourd'hui, mais qui l'a été depuis le début. Et à l'époque de Barski, il l'est aussi parce qu'il parle de ça comme un monastère grand, fort, puissant, etc., qui l'impressionne beaucoup. Et donc, ce sont les moines de Vatopédi qui chantent ici un extrait de la liturgie de la Théophanie.
Oh.
les moines de Vatopedi, monastère célèbre de Latos, chantaient ici un extrait de la liturgie de la Théophanie. Nous revenons donc à notre conversation avec Myriam Odaïski et Pierre Gonneau sur les pérégrinations de Vassili Barski, qui est allé donc à Vatopedi et qui en parle. Alors Myriam, si vous voulez nous lire un extrait de la manière dont il l'a vu là, à Vatopedi. Hein.
Surpassant tous les autres par sa situation et la beauté de son architecture, ce monastère possède une grande et belle église principale, dont les dômes sont recouverts de plomb et dont l'intérieur, peint de fresques de saints et d'histoire, est en partie orné de mosaïques, ouvrage ancien mais raffiné. L'église est dédiée à l'Annonciation. Son sol est pavé de divers marbres et elle est ornée de lampes et de cierges. Le monastère s'est illustré par de nombreux miracles, je ne raconterai ici que les trois principaux, causés par des icônes miraculeuses de la très sainte Mère de Dieu. Et il dit plus loin, « Les moines possèdent un navire, un filet et un moulin que fait tourner un torrent s'écoulant de la montagne. »
Alors, ce livre est plein de petits... Ce récit déjà, hein, le manuscrit, plein de petits dessins. Il y en a 148, je crois. Et il y a 32 illustrations dans le livre que nous avons ici en main. Et Pierre, donc, si vous voulez nous raconter un tout petit peu, parce qu'il y a un recoupement entre le texte que nous venons de lire et le dessin.
Voilà, c'est-à-dire que le dessin, c'est aussi, enfin, c'est l'équivalent d'une photographie, mais faite à la main. Et donc, d'abord, il nous indique toujours où est le soleil, où il se lève, l'orientation, même si c'est pas forcément le dessin nord-sud. Et d'autre part, il nous montre l'architecture, la pente aussi, puisqu'il faut monter très souvent. Et puis on voit effectivement le filet, le moulin, des petits poissons parfois au bout d'une ligne, quand le moine alors pêche depuis le haut de la falaise. Donc c'est assez amusant, ça ressemble à un dessin d'enfant par certains côtés, mais en même temps d'une précision très fine. Et qui permet donc d'avoir un aperçu topographique. Alors il nous raconte même une fois qu'il était monté en haut d'un fort escarpement pour essayer d'avoir vraiment la vision panoramique, qu'il s'était beaucoup appliqué et que son dessin s'est envolé, ce qui fait qu'il est très malheureux d'avoir perdu ce dessin-là. Et il en offre aussi quelques-uns, mais il a ramené son portefeuille, disons, de dessins jusqu'à Kiev, où Myriam est allée les voir d'ailleurs. Et il y a encore des découvertes à faire, puisqu'on en avait publié dans les éditions précédentes, mais il y a encore des choses à découvrir, et ça sera certainement aussi l'objet de travaux ultérieurs.
Et sont-ils toujours en bon état, Myriam, ces dessins ?
Oui, ils sont en très bon état. Alors, certains sont intégrés au texte dans son carnet de voyage. D'autres sont des feuillets à part. Il y a aussi des dessins qui ne ressemblent pas vraiment aux paysages dont on a parlé, qui sont des copies de manuels de dessin qu'il a pu, peut-être Barski aurait pu voir en Italie, et qui sont assez étonnants de la part d'un orthodoxe de l'époque, parce que ce sont des dessins du corps humain, donc dans la veine de la Renaissance. Et pour un apprenti moine, c'est un petit peu étonnant, ça montre son ouverture à l'art, sûrement, puisqu'il est d'ailleurs très émerveillé par toutes les sculptures qu'il voit en Occident.
Sa culture aussi, puisqu'il a reçu une culture assez latine, hein, en fait. Hein. C'est peut-être ça. Et le voyage en Italie, tout ça l'a impressionné. Alors, on va prendre d'autres lieux, toujours merveilleusement bien décrits par Barski, en tout cas très intéressant. Pierre, si vous voulez.
Alors oui, là, c'est Damas. Et voilà le problème qu'il se pose. Au lieu de me rendre à la résidence du patriarche, donc en territoire orthodoxe où là il est connu, écoute ce que je fis. Donc il s'adresse à son lecteur en fait. Comme je l'ai déjà écrit plus haut, il y a à Damas une grande et très belle mosquée. C'était à l'origine une église cathédrale dédiée à Saint Jean le précurseur, effectivement. Et je l'avais souvent contemplé de l'extérieur alors que je me trouvais à Damas, ne pouvant me rassasier de sa beauté. Et là on devine tout de suite, il veut entrer. C'est clair. Je désirais ardemment entrer à l'intérieur, demander conseil. Alors on lui dit que c'est risqué et on lui dit aussi qu'il pourrait finir très mal. Mais comme mes vêtements de voyage étaient loqueteux, pareil à ceux d'un derviche, un pauvre voyageur turc, ceux qui vont à la Mecque à pied et traversent de nombreuses contrées vêtues de loques rapiécées, je ne pensais pas être reconnu, priant Dieu, évidemment, et il me fut donné d'entrer et de vénérer sa sainte et belle église, sans péril pour mon âme et mon corps. Donc il a réussi, et il nous donne un dessin, évidemment, de cette mosquée vue de l'intérieur, parce que pour lui c'est une église, et évidemment c'est une église à l'origine. Donc rien ne l'arrête, on pourrait dire. D'une certaine façon.
Il faut dire que c'était un grand lieu de pèlerinage chrétien qui a été transformé par le califat des Omeyyades en mosquée. Hein. Myriam, peut-être une autre étape du voyage, une autre impression de Barski et de vous-même lisant Barski.
Oui, donc il y a la découverte de la Mer Morte qui est à la fois un lieu religieux et un lieu étonnant, un site naturel étonnant. Donc, quelle est la force de la Mer Morte? Son eau est fort salée et amère, et elle mange si férocement tout le corps qu'il est difficile de la supporter. En revanche, démangeaisons, escarres et autres lésions et toute impureté disparaissent grâce à elle. J'ai vu des arbres debout dans l'eau, et nous les avons touchés. Ils sont gros et grands. Depuis la racine jusqu'à mi-hauteur, ils sont immergés. La cime se voit de loin. Ils sont secs, n'ont pas une feuille, et sont si solides qu'ils ne se brisèrent point lorsque nous y grimpâmes à deux.
Excusez-moi, ici c'est presque un guide de tourisme que nous avons. Hein. C'est le regard d'un voyageur, c'est pas un pèlerin qui parle là. Donc il y a un côté aussi, le goût du pittoresque, je dirais. Hein.
Oui, il y a une réelle curiosité et un sens vraiment de l'homme, du corps aussi. Il parle beaucoup de son corps, du corps des autres, des moments agréables et des moments surtout durs. De la joie que peut donner un petit verre de vin aussi quand on vous en offre un. Et bon, évidemment, de la nourriture qui est plus ou moins bonne. Alors si, dans tel et tel village, il est attentif à toutes ces choses-là. Alors évidemment, après, peut-être une des choses pour rapprocher de la fin, c'est quand il reçoit une lettre officielle du résident russe. Parce que d'un côté, c'est un grand honneur, mais de l'autre, c'est un petit peu un rappel à l'ordre aussi. Et ça, on voit bien que tout d'un coup, les choses changent. Le message est adressé en des termes aimables, évidemment. Très honorable père Vassili, puisqu'il est déjà moine. Salutations au nom du Seigneur. Grâce à vos lettres adressées au père Constantin Neapolitanski, j'ai la joie d'apprendre par mon chapelain actuel que vous vous trouvez à l'île de Patmos. Mais on lui dit, à la réception de ces documents, vous êtes prié sur ordre de sa grandeur impériale de rentrer immédiatement à Constantinople sans fléchir et sans tarder. Donc là, on voit tout de suite que le système russe le reprend en main. Et de Péra, Constantinople, le 17 avril 1743, tout va changer à partir de là. Alors, il en aura des avantages, effectivement. Il aura une petite période agréable où il a un passeport officiel et il est protégé par le résident. Mais en même temps, on va l'orienter après vers le retour et ça sera, disons, la fin un petit peu de cette vie d'errant qui était une vie qu'il avait choisie, d'une certaine façon. Et bon, maintenant, il est content de rentrer à Kiev, il en a envie, mais en même temps, bon, on voit bien qu'il est poussé un petit peu et qu'il n'est plus cet être qui est son propre maître, d'une certaine façon.
Alors, ce livre, ce témoignage, ce journal de voyage, en fait, donne des renseignements à plusieurs niveaux. Et pour terminer, peut-être je voudrais dire ça, parce qu'en lisant ce qu'il écrit sur l'île de Patmos, que beaucoup d'entre nous connaissent pour l'avoir visité et où se trouve, évidemment, un pèlerinage très important de l'apôtre Jean qui y aurait écrit l'Apocalypse, il dit quelque chose qui est, je dirais, une deuxième couche d'histoire, mais très importante. Et là, et qu'il y avait un hiérodiacre, donc un diacre moine, Macaire, qui était très instruit, et grâce à lui, il n'y avait pas un seul analphabète sur l'île. Et là, on voit bien qu'il donne aussi des informations directement sur la situation de la population locale, hein. Et que évidemment il admire beaucoup le travail de ce Macaire, et je crois que c'est quelque chose de très intéressant, donc que chacun pourra lire à sa façon et avec chaque historien aussi en fonction de ses propres intérêts scientifiques. Alors pour terminer, deux mots sur sa mort, parce qu'on voit que en fait il est arrivé chez lui et il est mort très peu de temps après. Myriam.
Oui, il est mort d'épuisement, sûrement, les suites de son voyage. Il faut savoir qu'il a été malade aussi, quand même, à plusieurs reprises. Il avait un œdème à la jambe. À certains moments, on a l'impression qu'il a des symptômes de la malaria. Donc son corps était vraiment épuisé par ses 25 ans d'errance.
Et en fait, il n'a pas vécu longtemps, parce qu'il est né en 1701, il est mort en 1747, 46 ans. Oui. Bon, pour l'époque, c'est déjà une vie. Si vous voulez. Et la sienne est très, très pleine, je dirais. Mais enfin, c'est bien un vieillard qui meurt à cette époque-là. Alors, est-ce que son œuvre a été vite relue, travaillée, appréciée, ou c'est quelque chose qu'on avait oublié et qui est ressorti longtemps après, Pierre Bonneau?
ça a intéressé, c'est-à-dire qu'après sa mort, on s'est préoccupé de l'éditer. Donc il y a eu une première fois dans les années 1770 où il y a eu une édition, on pourrait dire choisie, où on a un petit peu sélectionné les passages et qui donc a été imprimée à l'époque donc de Catherine II. Puis il y a à peu près un siècle, on va dire, de latence, où là, dans un contexte plus érudit, plus scientifique, on va faire une édition russe encore, avec les dessins. Et donc, c'est un peu l'édition de référence quand on n'a pas le manuscrit sur place. Et cette édition, donc, a établi, on pourrait dire, la réputation du point de vue scientifique de Szebarski. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu beaucoup de rééditions partielles en Grèce, et également aussi en Russie et en Ukraine, de certains fragments, parce que, évidemment, tout le monde y trouve son compte. Alors, il y a Chypre vu Szebarski, il y a la Terre Sainte vu Szebarski, etc. Donc, c'est un personnage qui est encore connu, et peut-être même qui est mieux connu maintenant. Et je pense que ça sera certainement intéressant de voir dans les années à venir comment on va encore parler de lui. Et j'espère aussi que cette traduction permettra au public français de se familiariser avec lui, parce que c'est vraiment un personnage passionnant.
Et c'est un livre passionnant, donc cet extrait, très grand extrait, et du journal de Vassili Barski, donc sous le titre Vassili Grigorovitch Barski, Pérégrination 1723-1747, traduit par Myriam Odaïski et commenté aussi par elle et Pierre Gonnot aujourd'hui. Livre paru en 2019 aux éditions des Sirtes. Un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Claude Nior. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.